Entre Fayard et Sapin,
entre Plaine et Doline,
des voix furtives,
entre Mobilette et Silex,
entre Scooter et Tetra,
les voix se glissent,
double Blafip,
chèvre et cochon,
les voilà qui rebondissent,
dans la bergerie,
dans le garage,
dans la dameuse,
dans le chasse-neige,
et le tunnel,
les voix se choquent et s'entrechoquent,
et toquent,
grotte profonde,
crête ventée,
boulangerie,
cours d'école,
des voix sur un plateau,
une émission
tout en Vercors.
Bon appétit.
Bonjour Annette.
Bonjour Bernard.
Bienvenue sur Des Voix sur un plateau et aujourd'hui une émission qui va nous intéresser vivement.
Et oui, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'alimentation dans le Vercors.
Ouais, dans son assiette ou voilà.
L'assiette du Vercors.
Alors, agir localement, hein, voilà, agir très localement, puisqu'on parle de notre assiette, pour un désordre global, pour dire certain. Donc, agir au niveau de son alimentation, c'est pas facile, surtout sur le Vercors, puisque, comme on sait, c'est un pays montagnard, donc l'hiver, il n'y a pas grand-chose de vert.
Et, oui.
Et l'été, tout est vert. Donc, il va falloir
adapter avec la saison.
Alors, si manger que de la cochonnerie, c'est ça. mais tu verras, Annette, qu'on s'est renseigné un petit peu de ce que mangeaient les anciens. Et ben, les gens n'arrivent pas trop bien à saisir. Hein. On a fait le tour du village, là. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les anciens pendant l'hiver?
Et voilà, vous allez voir une émission donc, sur 107.5 pour Radio Diwa et sur 93 pour Radio Royan, avec différents reportages, différentes personnes qu'on a pu rencontrer. Donc on va commencer par une soirée qui a été organisée par le parc sur le programme alimentation.
D'accord, une soirée alimentation auquel il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde. On s'est retrouvé un petit peu entre nous à croire que l'alimentation n'est pas le but premier des familles, ou alors il y avait un petit problème. Il faut dire la vérité, Annette.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Par contre, on verra qu'avec les enfants de Bassieux, ça prend une place importante à la cantine, quand même.
Ah, ben tout à fait, ouais, parce qu'effectivement, il y a eu les enfants de Bassieux. Mmh. Assez intéressant. Mmh. Un micro-reportage aussi, micro-trottoir. Avec les touristes, les habitants, les commerçants.
Ah, le trottoir fait par Ralidja.
Ah, une jeune reporter, on dit.
Oui,
voilà, dans ses premiers, dans ses prémices de reportage.
Merci, Ralidja.
Et puis après, on termine aussi par un apiculteur.
Ah là, c'est pour ça qu'il faut agir, parce que toutes les abeilles sont en train de disparaître. C'est pas un mythe, c'est pas un truc d'écolo. C'est un truc réel et on verra pourquoi les abeilles sont vitales. Vitales pour l'espèce humaine, évidemment, mais vitales pour la planète. Donc les abeilles disparaissant, ce n'est pas forcément que le miel qui est en train de disparaître. C'est aussi l'apiculture, bien sûr, et puis toute une série, j'allais dire, de chaînes, de maillons, du vivant qu'on est en train de mettre à la poubelle en quelques décennies.
Voilà.
Donc, voilà. Et ben, des voix. On était dans ton assiette, Annette ?
On est dans l'assiette,
moi,
des voix sur un plateau. Et on commence par le programme du parc.
D'un programme qui s'appelle Alimentation Santé Territoire, animé par le parc et avec différents partenaires, dont la PAP, donc l'Association des agriculteurs du territoire. Il y a le CPIE, donc nous, qui sommes une association d'éducation au territoire. Une diététicienne, Nicole Vidal, qui aussi, sur le volet santé, travaille avec nous. et alimenture, voilà. Du coup, on avait, depuis 2013, été sollicité par la commune de Vassieux, qui se posait des questions sur le contenu de l'assiette des enfants durant la restauration scolaire, et qui voulait savoir si les parents étaient prêts à peut-être trouver de nouvelles formes de restauration, parce qu'actuellement, en fait, c'est les parents qui livrent, qui donnent des tupperwares aux enfants. Et les enfants mangent ce que font les parents la veille ou le matin même. Donc voilà, on a fait des animations dans le cadre du périscolaire. Donc on a, avec Géraldine, qui va nous expliquer un peu ce qui a été fait. On voulait convier en fait les parents à manger les crêpes réalisées avec des produits locaux, avec les enfants, et réfléchir, avoir une réflexion sur ce temps de repas. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on essaye de trouver d'autres solutions pour que les enfants aient des produits locaux dans leur assiette à midi? Donc Géraldine, peut-être expliquer un peu comment étaient faites les crêpes et d'où viennent les produits, parce que ça...
En fait, du coup, on s'est réunis deux fois avec les enfants du périscolaire, une première fois la semaine dernière, où on a fait différentes activités et jeux pour commencer à s'interroger sur l'alimentation et sur les produits locaux en particulier. Et l'idée, c'était donc qu'aujourd'hui, on réalise la pâte à crêpes à partir des produits qu'on pouvait trouver sur le Vercors. Donc on a réalisé un petit panneau avec les enfants. On a essayé de chercher les produits qu'on pouvait trouver au plus près, ou en tout cas en restant vraiment sur le territoire du Vercors. Alors, pour la farine, c'était assez facile, du coup, puisqu'il y a Cécile de Vassieux qui a pu nous fournir de la farine, qui fait du pain plus. Je crois qu'elle ne vend pas la farine en particulier, mais là, elle a bien voulu donc, nous vendre un kilo de farine. Et ensuite, donc on a trouvé le lait qui n'est pas très loin aussi, qui est à la chapelle en Vercors, à la ferme de la Cime du Mât. Et après, on a dû aller un petit peu plus loin pour aller chercher les œufs et le beurre. Les œufs, ils viennent de Corançon et le beurre d'Angin. Ça reste quand même pas trop loin. Voilà, et donc on a préparé les crêpes. Et ensuite, on a aussi fait un petit atelier artistique qu'on pourra refaire ce soir si Liam t'a envie, sur des peintures végétales. Voilà, donc on s'est amusé à créer des peintures à partir de végétaux, voilà, de produits.
Mais voilà, est-ce que les enfants ne sont pas intervenus en se disant non, on a aussi des produits chez nous, ou grand-mère, ou non?
En fait, c'était pas quelque chose qui était si évident que ça quand même. D'accord. Pour tous, quoi, les produits locaux. En fait, y a, je pense que après, ils ont l'habitude, ils ont réagi un peu, mais ouais, je ne sais pas, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, par rapport aux produits qui étaient là, je sais pas, Héloïse, mais j'ai pas. Est-ce qu'ils sont intervenus, les enfants, par rapport aux produits?
Ça ne les a pas surpris non plus. Ouais, je pense, un peu comme toi, oui, que les enfants sont quand même habitués à manger local et voir leurs parents faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette aussi. On a quasi. Enfin, tous les enfants qui avaient ont tous un potager, savent d'où le lait vient, comment le beurre est à peu près fabriqué, tu vois. Voilà, même s'ils ne viennent pas du milieu agricole.
Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi. Il faut lâcher prise, allez calme-toi. Quand la tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Oui, quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi. Il faut lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire relâcher son attention. Lâcher prise en d'autres termes, c'est refuser la pression. L'itinéraire d'une fille, l'itinéraire d'un garçon. Je saurais s'accommoder d'obligations d'interdiction.
Les certificats, les brevets, tous les diplômes avec mention. À eux seuls ne suffisent pas à former les générations. Être à l'affût des sensations, être à l'affût des vibrations. Le savoir qui mène au pouvoir, entre les deux il y a l'action.
La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. La tête te fait mal et que ça craint autour. Il faut lâcher prise, allez calme-toi.
Le centralisme nous les prise.
Il faut lâcher prise.
Partout on nous parle de crise.
Il faut lâcher prise.
Le commerce et la loi du bise.
Il faut lâcher prise.
Les infos et les analyses.
Il faut lâcher prise.
La peur qui nous paralyse.
Il faut lâcher prise.
Tous les discours qui nous défrisent.
Il faut lâcher prise.
C'est les bien-pensants qui interdisent.
Il faut lâcher prise.
Les gouvernants qui nous méprisent.
La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise. Décontracte-toi.
Te fait mal et que ça crève autour de toi.
Il faut lâcher prise, allez calme-toi.
Ce qu'on appelle le système où faut y prendre de la peine, en saisir la complexité. Surtout pas rester à la traîne, sinon tu te fais éjecter.
L'ignorance est un grand danger, c'est comme aller les yeux fermés. Dans la danse, le papé est là pour te le rappeler. Au quotidien, tu dois trouver l'information et discerner où est le mal, où est le bien, ce qui est faux, ce qui est vrai.
Que tu sens un malaise en toi. Il faut lâcher prise, décontracte-toi. Mais quand la tête te fait mal et que ça craint autour de toi, il faut lâcher prise, allez calme-toi.
Les affaires qui scandalisent,
il faut lâcher prise.
Les
gâteaux sous la cerise,
il faut lâcher prise. Les financiers qui vampirisent,
il faut lâcher prise.
La police qui verbalise,
il faut lâcher prise.
Les bâtards qui balkanisent,
il faut lâcher prise.
Le progrès qui spécialise,
il faut lâcher prise.
La violence et la bêtise,
il faut lâcher prise.
Avant que l'on soit dans la mouise.
La tête te fait mal, que tu sens un malaise en toi.
Il faut lâcher prise, décontracte-toi.
La tête te fait mal et que ça craint autour de toi.
Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise.
Il y a.
Dans mon assiette, il y a mince, il y a. Et dans mon verre, il y a du pastis.
C'était lâcher prise, ouais, de
Massilia. Il faut lâcher prise, hein. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut agir localement, Annette. Et agir localement, c'est quand on se retrouve devant un produit et se dire, attends, celui-là.
Il est intéressant, pourquoi? Et celui-là ne l'est pas, pourquoi?
Oui, intéressant, ça dépend où est-ce qu'on met l'intéressant. Si c'est juste pour le côté peut-être alimentaire. Mais moi, j'aime bien les ananas. On verra ça plus tard.
Voilà, et bien maintenant, on va avoir donc le micro-trottoir réalisé par Radija qui vient de la région parisienne.
Alors, un micro-trottoir où il a fallu quand même qu'elle ne marche pas trop sur les trottoirs parce que c'était bien enneigé. Hein, et on s'aperçoit que nos communes n'ont pas trop d'argent parce que les trottoirs sont vraiment très enneigés. C'est un petit peu comme le ravalement, Annette, le ravalement des maisons. Hein, les villes où il y a de l'argent, quand on était au Québec, là, ils ont des petites machines, des petits machins.
Et puis ouais.
Là, on s'aperçoit que tu passes à La Chapelle-en-Vercors, tu passes ailleurs, tu dis, oh là là, mais c'est la Bérésina centrale, là.
L'hiver dans le Vercors, ouais, c'est on la neige, c'est sympa, mais c'est pas facile pour tout le monde. Hein.
Voilà, on sent que le réchauffement climatique n'y a pas été là cette année, hein, et que les moyens ne sont pas là non plus. Alors, on verra ça plus tard, je pense.
Donc, merci à Radija pour ses questions aux touristes et commerçants du coin.
Bonjour, c'est pour un reportage pour Radio Jiwa. Pouvez-vous me dire ce que vous allez manger ce midi?
Ce midi, normalement des lentilles.
Ah, moi j'ai déjà mangé. On a mangé du rôti de porc avec du bacon et du fromage à fondu dessus, raclette dessus.
Ce que je vais manger, moi je ne sais pas, les clients après, il y a différentes formules, donc formule montagnarde, tartiflette, formule terroir avec les ravioles. Moi pour l'instant j'en sais rien, sûrement une salade.
Savez-vous ce qu'on pouvait manger dans le Vercors pendant l'hiver au début du XXe siècle?
Non,
Qu'est-ce que j'allais dire ? Des patates. Non, je sais pas. Au début, non, je sais pas. Bah, des ravioles, non, je sais même pas.
Non, non. Moi, je dirais de la charcuterie.
Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait manger, chérie ? Tiens, c'est toi, c'est lui le chef, alors tu peux lui demander à lui. Qu'est-ce qu'on mangeait au début du XXe siècle ?
Qu'est-ce qu'on mangeait au début du XXe siècle ici ? On mangeait des... Non, c'était des... Ça me revient, ça me revient. Ça.
Oui, les besantes. Donc c'était le plat un peu du pauvre, farine, lait, œufs. Après, ils faisaient les moines. Voilà, c'est les deux plats qui me viennent rapidement. Quoi.
Pendant l'hiver, on ne peut rien produire. Donc c'est surtout, on mange ce qui se produit l'été. Donc, l'été, bah, on produit du blé, comme Cécile elle fait, par exemple, avec son pain. On fait quoi du vache, pour le lait, mais bon, le lait, c'est mieux le fromage.
Du cochon, là.
Du cochon,
ouais. Ouais. Au saloir.
Ouais.
C'était pas...
Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, il n'y a pas de châtaigne.
Il n'y a pas de châtaigne,
non,
il n'y a pas de
noix.
Il
n'y
a pas de noix.
Il n'y a pas de noix.
Il n'y a pas de noix non plus.
Des pommes de terre.
Des pommes de terre.
Ouais, ouais.
C'est la base. Hein.
De la production locale.
Des pâtes aussi.
Que pensez-vous de la consommation de produits locaux ?
Ici, ça fonctionne bien, ouais. Avec le fromage, les ravioles, etc. Ça fonctionne vraiment très bien, oui.
Ah bah les produits locaux, c'est bien. C'est ce qu'il y a, ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il y a mieux pour l'écologie et tout le monde. Consommer les produits régionaux.
Bah, c'est l'idéal pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Les petits producteurs, et c'est ce qui amène l'activité.
C'est bien. C'est pour les gens du canton, ça aide. Et c'est bien. C'est des fois meilleur que ce qu'il y a dans les industries.
Okay. Bah, merci.
Bah, je pense que c'est top. Hein. C'est l'avenir parce que ça renforce l'esprit de communauté.
A priori, c'est un circuit qui est plus court, donc les produits sont plus frais, et puis ça fait marcher l'économie locale.
Et vous êtes toujours sur 107.5 pour Radio Diwa et sur 93 pour Radio Royan. L'émission faite par Base Nature Vercors dévoile sur un plateau. Dans mon assiette, il y a...
Ah, dans mon assiette, il y a...
D'ailleurs, Bernard, tu as rencontré les enfants de l'école pour la cantine, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, j'ai fait un peu le Jacques Martin. Tu te rappelles pas du Jacques Martin ? Et là, qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta maman a mangé ? Hein, ben non, je suis tombé dans une école, enfin dans une cantine hyper sympa, un petit village, donc Bassieu-en-Vercors, avec une ambiance extraordinaire. Et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir ces relations menées par une animatrice évidemment diplômée, puisqu'on voit tout de suite que eh ben, ça se passe bien entre les enfants, qu'il y a vraiment une habitude. Et puis, ils sont tous ouverts, avec chacun leur petit visage bronzé, ils sont super. Voilà, donc on va les écouter, et vous allez voir que... On ne sait pas trop toujours d'où vient l'alimentation hein, quand on est jeune.
Alors, et oui, parce qu'il faut rappeler qu'à Vassieux, la cantine, en fait, eh ben, c'est chaque parent qui fournit le plat aux enfants. Mmh. Voilà, ben oui, c'est bien, bien sûr, c'est bien.
Et des grands-parents qui fournissent aussi la récolte. Écoutez ça.
Alors, je suis actuellement dans le petit local qui sert de cantine, voilà, et qui sert aussi d'animation. Je suis en présence de qui là ? Qu'est-ce que j'ai ? Comment tu t'appelles ?
Basile.
Basile, ok. C'était bon le smoothie ?
Oui.
Ouais. Et toi, comment tu t'appelles ?
Nemo.
Nemo, ok. Et puis ?
Romane.
Romane. Donc, vous avez mangé quoi ce midi ? Est-ce que tu t'en rappelles ?
Des pâtes.
Des pâtes, ouais.
Du brocoli.
Du brocoli.
Des saucisses.
Ah, des saucisses. Et toi ?
Et nous, on a mangé des haricots, des patates et puis... Et des saucisses.
Ok, des saucisses aussi. Alors, on va ensemble discuter un petit peu de ce qu'on peut manger dans le... On va parler un petit peu de ce que vous avez mangé, si vous savez un peu d'où ça vient. Par exemple, les pâtes, elles viennent d'où ? C'est fait avec quoi ? Des champs de pâtes ?
Non.
Ah. Champs de nouilles ?
Non.
Ah bon.
Qui est-ce qui sait? Est-ce que toi tu sais comment c'est fait les pâtes?
Non.
Tu sais comment c'est fait les pâtes?
Avec une pâte.
Ah, avec de la pâte? Ouais.
C'est un jour.
Et de la pâte, fait avec quoi?
De la farine.
Et de la farine? Et la farine fait avec quoi?
Du beurre.
Du beurre, ouais.
Du blé.
Du blé. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, le blé, ça pousse ici ou pas?
Oui.
Oui ou non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui? Un peu? Pas beaucoup? Beaucoup? Et comment tu sais ça, toi?
Bah, il y a plein de champs.
Il y a plein de champs?
Oui, mais c'est pas du blé, c'est du foin.
C'est pas du blé, c'est du foin?
C'est du maïs.
C'est du maïs? Du maïs, ok, d'accord. Et alors, on a mangé aussi des saucisses. Qui a mangé des saucisses? Je m'en rappelle plus. Toi et toi. Saucisse, c'est quoi?
C'est de l'intestin.
C'est de l'intestin, ouais. Intestin de quoi?
Intestin
grêle. Ouais, ok. Qu'est-ce que t'en penses des saucisses, c'est quoi?
C'est de la viande.
C'est de la viande? La viande de quoi?
Je sais.
Vas-y, tu sais, c'est quoi?
Des fois, il y a de la viande des...
La viande de mouton, ça peut être des merguez par exemple. Ça s'applique un peu les merguez. Hein. C'est bon, ça pique. Ok. Alors, au dessert, on a pris quoi? Alors, toi, t'as pris quoi au dessert?
Une danette au chocolat.
Danette au chocolat. Dans la danette, qu'est-ce qu'il y a?
Du chocolat.
Du chocolat. Parfait, puisqu'elle était au chocolat. C'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu peux rajouter autre chose dans la danette?
Non.
Non? On mettrait quoi, toi, pour faire la sauce danette?
De la sauce.
De la sauce, ouais, voilà, pour mettre de la sauce d'aneth, pour mettre de la sauce. Toi, qu'est-ce que tu ferais si t'étais un peu cuisinier?
Je sais pas.
D'accord, t'as mangé quoi ton dessert?
Un flambi.
Un flambi? Flambi, il y a quoi dedans?
Il y a un peu de lait, il y a un peu de sucre.
Un peu de sucre, oui.
Après, je sais pas.
D'accord, on fait de la pub, hein. Danone, flambi, tout ça, c'est des marques, hein, vous savez. Un flambi, c'est un flan, et la Danone, c'est la crème au chocolat. Vous savez qu'à la radio, on peut faire de la pub, mais il faut qu'ils nous donnent un peu d'argent, hein, sinon on va pas le prendre. Hein? Et, alors, et toi, t'as mangé quoi ton dessert?
C'est du yaourt.
Le yaourt? Donc le yaourt, c'est quoi?
Bah, il y a du lait.
Ouais.
Du
lait? Ouais.
Du lait, et puis après on fait cuire.
D'accord, ok, bah c'est bien, hein. C'est... Est-ce que vous pensez qu'on peut faire à manger avec ce qu'il y a ici dans le coin? Par exemple, je sais pas, il y a des choses. Tout à l'heure, tu m'as dit avec du foin. On peut faire à manger avec du foin? Non, on peut pas faire à manger. Mais par contre, ça nourrit quoi, le foin?
Les vaches.
Les chevaux. Les chevaux, ouais, tu peux parler.
Les vaches.
Et alors, qu'est-ce que tu ferais avec les vaches?
Mon papa, il en a, alors il les tue pour qu'on fasse des steaks et qu'on puisse les manger.
D'accord. Donc ton papa, il fait de la viande. Enfin, les vaches, quoi. Pour la viande.
Oui.
D'accord. Grâce au foin qu'il ramasse. Et alors, et après, donc avec ces steaks là, il les met dans une boîte, il fait quoi?
Il les met dans des cartons.
Ouais.
Et après, il y a des gens qui demandent à mon papa s'ils peuvent avoir des steaks et ils le vendent à mon papa.
Tu crois que ça part loin? Ça va loin des fois? Il y a des gens qui viennent de loin?
Bah, des fois, c'est des vacanciers.
Ouais.
Et des fois, c'est des gens qui habitent au village.
Ah, ça va être bon, ça, du steak du village. Mmh. Ok, donc là, on peut le mettre avec des pommes de terre. Ça pousse les pommes de terre ici? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y en a qui a déjà vu des pommes de terre dans les champs?
Non.
T'as jamais vu des pommes de terre
dans
les champs?
Si, moi, si.
Toi, t'en as vu, toi?
Dis-moi. Vas-y, parle.
Dans les dessins animés. Ok.
Si,
ok. Mais c'est là-dessus qu'ils comprend rien. D'accord?
Il y a des gens.
Ouais.
Qui nous
épanouissent
les
éléments
en fait.
Ouais.
Et là, c'est tout à l'heure. Et notre papy nous a. Là.
Ton papy, il a des patates?
Oui.
Des fois, il t'en donne ou pas? Oui. Qu'est-ce qui fait pousser ton papy?
Des patates, des carottes.
Attends, parle plus fort, c'est le fond.
Des poireaux, des patates, des carottes. Des tomates.
Des tomates, t'as pas su. Bah, non, il est courageux, hein, s'il n'y a pas beaucoup de soleil. Oh là là. Et il vous donne des foies pour manger?
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait à manger chez vous? Maman, papa, papy, mamie, c'est qui?
Les deux.
Les deux?
Oui.
Qu'est-ce qu'il par exemple avec des poireaux, des pommes de terre, des carottes, qu'est-ce qu'on peut faire? Vite. C'est une réponse. Vite, ting, ting. Qu'est-ce qu'on peut faire vite avec des pommes de terre, des carottes et des patates?
Bah, on peut faire à manger.
Ouais, voilà, bonne réponse.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme plat?
Une potée finlandaise.
Une potée finlandaise.
Ah bah,
ratatouille.
Une ratatouille avec les poireaux. Qui a une autre idée?
Des poireaux à la vinaigrette.
Des poireaux à la vinaigrette, très bien.
Une soupe.
Une soupe, bien sûr.
Merci
une
les
soupe.
Filles.
Ah, heureusement qu'il y a les filles, hein, c'est la base la soupe. T'aimes la soupe?
Oui.
Bon, t'aimes la soupe?
Ça dépend lesquelles.
Alors, laquelle que tu n'aimes pas?
J'aime pas la soupe aux poireaux. Alors, moi, j'aime pas la soupe aux aubergines.
Toi, t'aimes pas la soupe aux aubergines. Et toi?
Moi, j'adore la soupe.
D'accord.
Moi, j'aime pas la soupe en boîte.
Moi aussi,
toi, t'aimes pas la soupe en boîte. Pourquoi t'aimes pas la soupe en boîte?
C'est un drôle de goût.
C'est un drôle de goût. Ok. Et toi?
Moi, j'aime la soupe.
T'aimes la soupe? Toutes les soupes? C'est qui fait la soupe?
Ma maman.
Ah, alors, dis-moi un peu, parce que t'as l'air de... Tu te connais un peu en cuisine. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Qu'est-ce qu'elle met dans la soupe?
Elle met les légumes, elle met des patates, des poireaux et des carottes.
D'accord. Et les légumes, il y en a qui viennent d'ici, là, pas loin. Parce que tu m'as parlé tout à l'heure de la viande de ton papa, ton papa qui faisait des vaches. Est-ce qu'il fait des légumes
des
aussi
billes.
Non. Ah non, mamie.
Ah, c'est aussi. Ma mamie. Elle a un jardin, mais en hiver, elle ne le fait pas.
D'accord. Bah, l'hiver, elle ne le fait pas, mais elle le met de côté, ouais, bien sûr. Bah,
oui. Si, mamie, elle a un arbre de tomates dans la maison.
Ah, mamie a un arbre de tomates, ça c'est cool dans la maison.
Ouais.
Bah ouais, c'est bien. Hein. Pour le petit déjeuner, tout le monde mange quoi? Alors toi, tu manges quoi?
Des céréales.
Des céréales.
C'est ça, moi, j'ai rien mangé.
Des toasts de Nutella.
Des toasts de Nutella.
J'ai rien mangé. Ça.
T'as rien mangé.
Ou des tartines, des crêpes au Nutella, des tartines au Nutella.
Bon, alors, le Nutella, ça serait quoi?
Chocolat. Du chocolat et des noisettes.
C'est des noisettes.
Ouais.
Et du chocolat.
Et du chocolat.
Et
d'accord.
Du sucre.
Très bien.
Du sucre.
Ok. Toi, t'as mangé quoi, pardon, ce matin?
Des tartines.
Tartines, alors, le pain, il vient d'où? Qui est-ce qui sait? Le pain, par exemple.
Magasin du blé.
Ouais, du blé. Et toi, par exemple, ton papa ou ta maman, ils avaient acheté où le pain? Ici, à la boulangerie?
Bah, ma maman, elle en fait, puis elle l'achète à la boulangerie.
Elle en fait?
Maman,
ouais.
Le Nutella, c'est pourquoi? C'est aussi, il y a du sucre, des noisettes, du lait, de l'huile de palme et des arômes.
D'accord.
Ah oui.
Est-ce que dans le Nutella, il y a des choses qui poussent ici?
Oui, des noisettes.
Ouais,
pas mal. Mais ça pousse en été.
Oui, on en a un devant chez nous.
D'accord. Tu as un noisetier devant chez toi. Un arbre à noisettes, c'est un noisetier. Tu as un noisetier devant chez toi. Toi aussi. Bon. Et vous en ramassez des fois, hein?
Oui.
Ouais, on peut faire des arcs aussi avec les noisetiers. Ouais. Mais ça, c'est une
histoire. Les écureuils sont passés avant nous. Là.
Moi, j'ai fait. Ah ouais, nous, on l'a déjà fait.
Toi, tu as fait un arc avec un noisetier. Bon, on peut faire plein de choses.
Nous, on l'a déjà fait.
Ok.
Moi, c'est hyper massif avec.
Ok. Bon, maintenant, j'ai juste une dernière petite question. Si je mange des choses qui viennent de très très loin, par exemple de l'Afrique.
Ils arrivent en avion, voilà. En bateau.
Ils arrivent en avion, en bateau. Il y en a combien de spectacles?
En voiture.
Ouais. Quelle est la différence avec quand je mange des choses qui viennent de pas très très loin? Par exemple, si je prends les poireaux de mamie ou les carottes.
Bah, pas grand-chose.
Pas grand-chose de différence.
C'est moins long. Ça coûte de l'essence.
Ça pollue.
Voilà, viens par là, parce que sinon on n'entend pas. Ok, et t'en penses quoi, toi? Les transports, ça pollue ou pas?
Oui, un peu.
Ça pollue, ça fait quoi quand ça pollue? Qu'est-ce qu'il y a une idée? Qu'est-ce que ça fait quand ça pollue?
Bah, ça fait de l'air qui n'est pas bon à respirer.
Ouais.
Bah, il y a de la fumée qui part du bateau.
Il y a de la fumée qui part du bateau, ouais, de l'avion aussi. Toi, tu, vas-y.
Et aussi, ça fait... Si on, par exemple, on jette un papier, ça fait... Tu sais, si les animaux et les mouches, ça les fait tuer.
D'accord. Ça pollue, quoi. Ok. Donc, si, par exemple, je fais du Nutella, pour pas dire la marque, à Vassieux... Et que le Nutella qui vient, il vient de très loin, lequel des deux vaudrait mieux prendre, par exemple?
Ceux qui viennent de très loin, parce que...
Ah, celui qui vient de très loin, c'est celui qu'il faudrait prendre, d'accord?
On l'achète parce que si on le fabrique nous-mêmes, on peut pas le donner à d'autres personnes.
Ah ouais?
Mais si tu l'achètes, tout le monde peut en prendre.
D'accord, on peut en retrouver partout, tu veux dire?
Oui.
Toi.
C'est mieux de le faire soi-même, parce que comme ça, tu pollues un peu moins la terre, parce que polluer, c'est pas bien. Après, ça va tellement polluer qu'on ne pourra presque plus vivre.
D'accord. Vous pensez qu'avec la pollution, on peut presque plus vivre ?
Non.
Ah bon ?
Ça fait...
T'as entendu ? Ça fait quoi ?
Ça fait que quand, avec tous les transports, il y a de la fumée et ça fait de l'air pas bon, ça pollue la terre.
D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, toi, là-dessus ? Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Est-ce que vous avez écouté à la radio ? Qu'est-ce que vous
avez... Comme à la voiture ?
Ouais. Donc si, par exemple, les transports, ils polluent pas, ça va mieux quand même ?
Bah oui.
Il faut mieux le faire soi-même, ça pollue pas. Et d'accord. En plus, ça pollue un peu plus meilleur si tu fais
bio. Ah là là, bio, mais moi je sais même pas ce que ça veut dire. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire bio?
C'est qu'il n'y a pas...
Alors, ça veut dire
pas plus de sucre quand tu l'achètes que tu...
Non, ça veut
y a
dire
moins
qu'il y a...
de...
Ils n'ont pas traité les noisettes, par exemple. Ils n'ont pas mis des produits chimiques.
Des produits qui peuvent être peut-être dangereux pour la nature ou pour l'homme. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu dirais bio? Ça te dit quoi, toi, par exemple?
Je sais pas.
Tu sais pas, ouais, bah tu as le droit de pas savoir, hein, c'est bien. Hein. Et toi? Toi, tu sais?
Non.
Tu sais pas non plus? Ok. Bon, bah vous avez répondu à plein de trucs, hein. C'est super sympa en tout cas. Merci. Et je vous donnerai l'adresse où vous pourrez vous entendre. D'ailleurs, on peut même s'entendre tout de suite. Alors, tu vois, Annette, ils ont été super sympas. D'ailleurs, ils vont peut-être faire bientôt une émission radio. On va leur donner le micro, ils vont se débrouiller. Mais en attendant, eh bien, je leur propose... quelque chose d'un peu clownesque. Tu connais les bons gâteaux locaux de Canard et d'Annette et de Flolo.
Les Verta Clowns, bien
sûr. Voilà, les Verta Clowns, un spectacle qui nous tient à cœur et que nous déplaçons un peu dans toutes les écoles. Si elle le demande, page pub. Donc il faut appeler le 04 75 48 top 29 48. Et là, les Verta Clowns se déplacent pour vous parler, écoutez, des abeilles, de la nécessité de protéger le monde.
Alors, peut-être la consommation locale qui voilà. Est vraiment de propos dans cette
alors,
émission.
Alors, on n'a pas entendu parler de l'effet de serre, mais je pense qu'après le spectacle, ils pourront parler de l'effet de serre. Hein, ils ont dit que ça polluait, ça faisait de la fumée, mais ils n'ont pas parlé du réchauffement climatique ou de la perturbation climatique. Mais grâce au Verta Clown, je pense qu'ils... Voilà. C'est parti, un petit cadeau.
C'est de la farine de blé, bien vos dedans.
Ah, c'est là qu'il faut. Il faut pas dire.
Respecter la nature, faut pas faire du gâchis, jeter partout n'importe comment.
Ah ben.
Et Cécile là qui plante son blé dans son champ, qui va le ramasser, tu crois qu'elle va se donner du mal comment là?
Il est trop marrant.
Pour remuer.
Ensuite, on va mettre un peu.
C'est ce que c'est.
Oh
miel.
C'est du miel. Oui.
Bon, miel.
Oh oui.
Ça, c'est le miel d'Élodie avec
ouais, ouais. Ah ouais, c'est elle qui le fait. Moi, je croyais que c'était les guêpes.
les guêpes pour le miel.
Les abeilles,
exactement.
Oh, c'est les abeilles, ouais.
Et les abeilles.
J'allais le dire. Hein.
Les abeilles.
Ouais. Non.
C'est les reines de la communication de la nature.
Oh, elles parlent.
Elles communiquent. Elles échangent.
Ah oui.
Parce que grâce aux abeilles,
ouais.
C'est elles qui pollinisent. C'est elles, quand elles vont quelque part, elles le transmettent. Voilà, je vais t'expliquer. Je suis une fleur.
Oui, ça t'es une fleur. Hein.
Et la fleur, elle est sur sa tige, elle a la racine, et elle peut pas bouger.
Ouais.
Elle peut juste bouger avec le vent, comme ça. Elle peut pas se déplacer. Alors le vent souffle, et elle ouvre ses pétales en grand, grand, grand. Et là, elle diffuse son parfum pour faire venir les abeilles. Et elle leur prépare même une magnifique piste d'atterrissage. L'abeille s'est posée sur la fleur, elle se remplit de pollen, et là, une autre fleur est là, elle bouge, et moi, petite abeille. Alors elle lui prépare une magnifique tasse de pollen, se mélange, l'abeille maintenant. Et pleine de pollen. Remplie. Elle retourne à la ruche. Et là, toutes les autres abeilles lui disent: où as-tu trouvé ce miel?
Mais où as-tu trouvé tout ça?
Zip, zap, zoup. 1 kilomètre, 2 kilomètres, champ de marguerite.
Zip, zap, zoup, champ de marguerite.
Et toutes les abeilles vont détourner les fleurs et ramener le pollen dans la ruche.
Oh là là.
Les fleurs vont pouvoir se multiplier.
Oh, drôlement bien tout ça. Et ça donne du miel.
Et ça donne du miel.
Et c'est ça qui est bien.
D'ailleurs, retournons à nos galettes.
Ah oui, oui, oui.
Mon histoire a commencé en 1901, en plein États-Unis, état du Missouri. C'est à Saint-Louis que je suis né, aujourd'hui numéro 1 mondial de l'industrie chimique et agricole, à qui l'on reproche d'avoir du sang sur les mains, ainsi que d'être la responsable numéro 1 du score de la biodiversité qui dégringole, de l'empoisonnement des champs jusqu'aux assiettes, de la chasse aux paysans qui plantent que je brevette. Des reproches, on m'en fait trop. Qu'ai-je fait pour en arriver là? Ma réussite, admirez-la, car je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. De l'entreprise qui a réussi sa vie. Incontestablement aidé par mon gouvernement, grâce aux liens qu'on a créés via nos portes tournantes. C'est la réalité, non pas un conte. Bien sûr, si vous prenez en compte les conséquences que mes choix ont entraînées. Des OGM à l'agent orange, en passant par les PCB et tous les êtres humains étrangement décédés, ainsi que mon attitude hardcore envers le vivant, je suis d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un dollar, alors je suis partout, je fais tout pour que tourne la machine. Même s'il faut que je m'échine, faut que ce monde je le domine, que son avenir je le dessine. Pour ça, je suis toujours prêt à jouer à l'assassine. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. Responsable de l'automise à mort de milliers de paysans qui par mes brevets et mon génie du gène étaient devenus complètement dépendants de ma politique envers ces petites graines. Car oui, je m'approprie ce bien commun que je vole aux mains de ces peuples qui se les ont transmises de génération en génération. Voilà ce qui se passe quand on ne peut pas se permettre de perdre un dollar. On en arrive à vouloir devoir et pouvoir tout dominer au point de breveter le vivant. Faire main basse sur la vie, on me le reproche souvent. Certains se mobilisent, me diabolisent et me résistent. Combien de temps tiendront-ils face à mon tempérament colonialiste? Je ne m'en fais pas tant, dans quelques temps de moi vous dépendrez. Pour toutes les graines semées et pour tous les champs cultivés, intégrez ce cercle vicieux, j'assombrirai votre futur. Le contrôle des semences et celui de la nourriture, c'est ma stratégie, plus puissante que les armes, plus puissante que les bombes. Oui, ma philosophie gronde, elle est le meilleur moyen pour contrôler le monde. Je suis une multinationale états-unienne. Je sème la haine, je fais pousser les suicides. Je suis les OGM, je suis les pesticides. Je suis devenu la reine des brevets de la mort. Je bois le sang des hommes qui me donnent la force d'imposer mon empire pour le malheur et pour le pire. La domination est l'objectif de ma politique. Elle n'a pas de prix ni moral ni éthique. Depuis quand l'éthique est-elle rentable? Mais si un jour elle l'est, brevetée, elle le sera aussi. Je m'en fous des critiques d'être lamentable. Je suis l'exemple même de l'entreprise qui a réussi sa vie. Vous avez cerné qui je suis, j'espère. Parce qu'à être la plus réputée, j'aspire, tout comme dominer l'avenir de cette humanité, sur qui je suis prête à tout pour faire l'unanimité. Mais c'est difficile quand on porte sur le dos toute l'histoire de Monsanto, que de la vie du monde et son avenir. On est les véritables bourreaux. Oui, les véritables bourreaux. Vous avez bien en tête que tous ces OGM que je brevette ne sont en fait qu'une corde au cou des paysans. Une corde que je tiens comme une laisse. Une corde au cou des paysans. Une corde au cou de l'humanité. Une corde que je tiens comme une laisse.
Alors, c'est Verta Clown, voilà, pas mal. Donc, vous avez compris, hein, si vous avez envie de
toute
faire
venir... Toute ressemblance avec des personnages existants ou avec des voix que vous avez déjà entendues n'est pas le fait du hasard, n'est-ce pas,
Danette? Et puis après, la musique, c'était, bien sûr, Colibri, Monsanto.
Alors, on voit tout de suite que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, on va parler, malheureusement, du malheur. dues à, justement à des épandages comme Monsanto ou des similaires, des molécules chimiques qui tuent les plus sensibles, c'est-à-dire les abeilles. Avec donc un apiculteur du Royan qui a vraiment tout perdu.
Oui, allô ?
Oui, bonjour, c'est Bernard de Base Nature, c'est Fabien ?
Ouais, salut, ouais, c'est Fabien, ouais.
Ok, ok. Bon, ben, bienvenue sur nos ondes.
Merci.
Voilà. Alors, donc, on a été informé dans le Vercors d'une, d'un malheur qui était arrivé au niveau de ton élevage. Et pour préciser auprès de nos auditeurs, c'est un élevage d'abeilles. Tu es apiculteur.
Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait.
Ok. Alors, que s'est-il passé ?
Donc, c'est il y a un petit peu moins d'un mois maintenant. J'ai passé voir mon rucher. Donc, mes abeilles, je les hiverne. Au pied du Vercors, dans le Royan, à Saint-Jean-en-Royan.
Oui.
Voilà, et donc, en fait, j'ai descends des zones un peu plus douces pour passer l'hiver, notamment le Royan, par rapport au plateau du Vercors, où elles sont en été. Et puis là, ça a été une vision cauchemardesque, parce que j'ai trouvé la totalité de mes abeilles mortes, pas une seule survivante.
D'accord.
100% de mortalité. Voilà, avec des abeilles, avec des ruches qui sont vides d'abeilles et pleines de provisions. C'est ce qui est assez inquiétant. Et sont pleines de miel, pleines de pollen. Donc, a priori, toutes les conditions pour passer correctement l'hiver.
D'accord.
Là, du coup, j'ai trouvé mon rucher désert d'abeilles, quoi, si tu veux. Voilà, avec quelques cadavres, mais on va dire les 95% des abeilles qui devraient peupler normalement ces ruches qui ont disparu, je pense, relativement subitement et la quantité de provisions qu'elles ont laissées, ça a dû arriver, je pense, début de l'hiver, début décembre.
D'accord. Alors, est-ce que toi, tu as une idée ?
Oui, des idées, ça fuse, des hypothèses, ça fuse aussi. En fait, ça ressemble beaucoup, pour ma part, au syndrome d'effondrement des colonies, dont on parle régulièrement aux États-Unis, en France. C'est-à-dire que c'est des colonies saines, qui ont une belle population d'abeilles, qui ont des provisions, et qui d'un coup vont s'effondrer très rapidement.
D'accord.
Alors oui, donc du coup, les hypothèses, comme je disais, elles sont multiples. Nous, on a un gros souci depuis les années 80 avec un parasite de la ruche qui s'appelle le varroa.
Ah oui, le varroa, oui.
Varroa, voilà, qui est une sorte de tic, c'est un acaria, c'est une sorte de tic voilà, qui suce les molins des abeilles.
Mm-hmm.
Donc qui les affaiblit déjà, qui réduit leur espérance de vie, qui réduit leur taille, leur poids, et qui leur transmet, vu qu'elle... Ce varroa pique les abeilles, ça leur transmet tout un tas de virus et de pathologies. Voilà, donc ça peut...
Alors ça, on ne peut pas le détecter sur l'abeille, on ne voit pas le parasite, on ne peut pas l'amener, je sais pas, les abeilles à l'INRA, on ne voit pas ce qui se passe, quoi. On peut pas... Par exemple, les abeilles que tu as trouvées mortes, elles étaient...
Non,
comment ?
Oui, c'est un parasite qui peut se voir à l'œil nu, hein, tout à fait. Mmh. Après, c'est pas forcément évident de connaître le taux d'infestation.
D'accord.
On sait qu'on en a dans toutes les ruches, donc il y a différents moyens pour lutter contre l'infestation de ce parasite-là.
Mm-hmm.
Des moyens chimiques. Moi, j'avais fait le choix plutôt d'une lutte biologique et mécanique en piégeant ce parasite chaque année. Je fais un piégeage sur le couvain mâle. C'est un parasite qui se reproduit dans le couvain d'abeilles, donc en leur présentant du couvain de mâle. Précipite dedans et en le retirant, ça me permet de maîtriser l'infestation. Du moins, c'est comme ça que je procède depuis 5 ans. C'est 5 ans que
d'accord.
J'ai voilà. Okay. Et donc, effectivement, ça peut être lié à ce facteur-là. Après, en discutant avec de nombreux collègues, le constat général qu'on fait quand on travaille dans l'apiculture, c'est quand même on assiste à une dégradation quand même de l'environnement.
D'accord.
Qui est au-delà de ce qu'on peut... C'est une prise de conscience supérieure quand on travaille avec les abeilles. Ce syndrome d'effondrement des colonies, il coïncide avec quand même l'arrivée sur le marché de nouvelles générations de produits pesticides.
Mais alors en ce moment là, c'est pas, on traite pas là en ce moment non, c'est pas.
On traite pas, malheureusement, c'est des produits qui sont hyper efficaces, qui ont des taux de rémanence. Donc effectivement, en ce moment c'est pas en hiver où il y a plus de traitement, bien sûr. Et ces produits produits, on sait que dans l'environnement, ils se dégradent. En divers produits qui, eux, ne sont pas testés. Donc, c'est des molécules qui sont dégradées par... les molécules qu'on met dans les champs, elles sont dégradées par par des bactéries, tout un tas de... toute une chaîne alimentaire. Et donc, ça donne de nouveaux, de nouvelles molécules, si tu veux, que personne n'étudie, qui sont parfois plus nocives que... Que la molécule de départ. Donc ça déjà c'est.
Et alors est-ce que j'allais dire nos anciens, ils avaient aussi ce souci d'un coup d'un effondrement ou pas?
Non, pas du tout. C'est
nouveau. Enfin c'est récent.
Alarmant complètement. Et tu discutes avec des apiculteurs il y a 30 ou 40 ans, la mortalité hivernale ça n'existait pas.
Voilà. D'accord.
C'est-à-dire que tu avais 10 colonies, tu retrouvais tes 10 colonies au printemps.
D'accord. Et surtout que là, il y avait du miel. Ce que tu me disais, c'est que en fait, il y avait du miel, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Après, bon.
Elles ont vécu un moment et d'un coup, boum, tout le monde en même temps est mort, quoi.
Ouais.
Ok. D'accord. Donc toi, tu es apiculteur, c'est ton métier?
Écoute, je suis en phase d'installation, donc.
Tu veux que ça soit ton métier, toi, c'est encore pire, quoi. J'allais dire dans le malheur. T'étais en phase d'installation. Tu avais combien de ruches?
36
ruches, d'accord.
Ouais.
Ça commence à représenter un gros investissement. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, d'énergie aussi. Après, il y a une belle solidarité apicole et agricole. On me propose là des essaims à droite, à gauche. Il y a un apiculteur de la commune là, qui vient me proposer ce matin de me prêter une trentaine d'essaims pour rebondir et
venir
comme ça sur le bord du chemin. Donc ça fait chaud au cœur.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc on va essayer sur le Vercors donc, de faire quelques concerts. On va en parler un petit peu plus tard dès que j'ai raccroché parce que je n'ai pas tout sur les yeux. Et essayer de bien dire un peu ce qui se passe pour te soutenir. Donc te soutenir, je pense, moralement, mais aussi d'apporter, j'allais dire, un petit peu de moyens pour pouvoir réinvestir. Tu n'abandonnes pas le projet, quoi.
Non, pas du tout. Non, pour moi, c'est une passion, les abeilles. Donc c'est un projet que je compte mener à bien. Effectivement, c'est un coup dur pour le moral et ce qui m'arrive là, mais je baisse pas les bras. J'ai espoir que nos petites abeilles, elles vont s'en sortir malgré ces conditions difficiles. Voilà, j'ai espoir aussi qu'on arrivera quand même à changer les modes agricoles, les modes de consommation aussi.
Tu penses donc que les abeilles, pour nos auditeurs, que les abeilles sont bien indicatrices d'un changement de milieu? Pas pathogène, mais disons grave au niveau justement de tout ce qui est insectes, adiptères et tout le reste, dû essentiellement à une agriculture intensive ou à des traitements qui ne sont pas adaptés, quoi.
Ouais, complètement. De toute façon, les chiffres le prouvent. Il y a de moins en moins d'abeilles, il y a de moins en moins de miel produit en France, mais on en a de plus en plus.
Parce que à travers ces abeilles, malgré tout, donc c'est l'image de l'abeille, bon, qui a une très bonne image, hein, je veux dire, le public aime l'abeille comme il aime le dauphin. C'est aussi toute la nature qui est derrière, parce que j'imagine qu'on ne se rend pas très compte aussi, peut-être qu'il y a d'autres espèces qui sont un peu affiliées au même mode de vie que les abeilles, qui sont très importantes donc, pour la nature, au niveau de la pollinisation, qui doivent recevoir pareil. Parce que les abeilles, c'est parce qu'on les regarde en permanence.
Tu as tout à fait raison. Nous, les abeilles, c'est vrai qu'on les suit parce qu'on travaille avec, mais tu as... T'as énormément d'espèces sauvages, d'abeilles sauvages déjà, t'as des centaines d'abeilles sauvages qui sont absolument pas, enfin qui sont mal étudiées et qui doivent subir probablement le même sort que nos abeilles. Et puis tu as ce qui m'arrive là, ça me fait prendre conscience que t'as des zones aujourd'hui en France, dans le Royan par exemple, où je me pose la question à savoir s'il y avait plus d'apiculteurs dans cette zone-là, est-ce combien d'années on aurait des abeilles, tu vois?
D'accord.
Là, je suis pas le seul touché.
T'es pas le seul touché dans le localement parlant.
Oui, localement, j'ai une collègue qui a perdu 25 colonies sur 28, donc ce qui est énorme.
Ah oui.
Un apiculteur aussi sur Saint-Thomas qui a perdu 200 sur 400, donc cet hiver-là. Donc voilà. Donc là.
Je ne connais rien en agriculture. On voit fleurir des noyers de partout. Hein, j'allais dire fleurir, peut-être pas, parce que je ne vois pas très bien comment ça fleurit, mais ça doit bien fleurir un peu. C'est quand même des arbres qui sont beaucoup traités, ça, les noyers.
bien sûr, c'est des arbres qui sont extrêmement traités, qui sont plantés massivement. Alors ça aussi, c'est aussi une démarche, voilà, enfin une réflexion à avoir, c'est que forcément, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression, que c'est une culture qui rapporte beaucoup, donc qui est plantée de manière intensive. Mmh. Donc quelque part, comme la nature tend toujours vers un équilibre, donc nous, quand on met intensément une espèce quelque part, la nature fait en sorte de réduire un peu, tu vois, de réduire celle la part de cette espèce-là qui devient invasive. Mmh. Donc la réponse de la nature, c'est bien sûr l'apparition de parasites. Et la réponse de l'agriculteur, cette apparition massive de parasites, c'est la chimie aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et qui ne cible pas que le parasite, mais qui cible tout un tas d'espèces, dont les abeilles. Notamment avec les chauves-souris noyées, ils ont des gros problèmes avec la mouche du brou, qui est une petite mouche qui provoque de gros dommages sur les noix, effectivement, sur la récolte. Mais donc la lutte, c'est par un insecticide qui tue donc les abeilles, entre autres, et de nombreuses autres espèces. Voilà, et puis bon, après, on sait bien que ces produits-là, de cette manière, hein, ils transitent via la chaîne alimentaire, via le réseau souterrain, et au final, on les stocke nous-mêmes dans nos corps. Hein.
D'accord, bon. Voilà. Bienvenue à Base Nature. Donc, on est toujours, malheureusement, pas surpris de ce que tu viens de nous dire. Hein. On est avec Annette, voilà, on est là tous les deux un petit peu quoi, bien sûr, parce qu'on se dit c'est pas possible qu'il se passe des choses comme ça. Pour le commun des mortels que l'on est, plus d'abeilles, donc pas de pollinisation, bien sûr, sur beaucoup d'arbres fruitiers.
Oui.
Sur aussi des légumes, j'imagine. Hein, j'imagine que, bah voilà. Donc ça emmène aussi à une chaîne, hormis bien sûr le désastre que tu as subi, une chaîne qui peut s'étendre sur beaucoup d'espèces finalement, voire la nôtre.
Oui, bah oui, bien sûr, bah, évidemment. Mmh. Oui.
D'accord. Bon, bah, alors on sera tous là pour te soutenir et aussi pour soutenir une autre forme d'agriculture, j'imagine, à Saint-Martin-en-Vercors.
Mais je crois que c'est le message, je pense, final. C'est, aujourd'hui, on sait, et notamment là, je relisais le rapport de l'ONU, là, il y a un rapport qui est sorti en 2000, donc ça ne date pas d'aujourd'hui non plus, tu vois. Sur les possibilités de l'agriculture biologique à nourrir la planète. Aujourd'hui, c'est évident que, vu les rendements que les agriculteurs bio ont, non seulement l'agriculture biologique peut nourrir la planète, mais j'ai envie de dire elle doit nourrir la planète, quoi. Voilà.
Oui, d'accord. Voilà, on va faire passer ce message. Je te remercie en tout cas, et puis à très bientôt.
J'ai faim de sens, de fond. J'ai besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes. Rester condamné à n'évoluer à court à des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé. Affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose sans renier mes origines. Et bien avant que je me décompose, vite besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.
Flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is merely a concept to find my path as I find my step. See the kids that seem so famished. They want direction cause their needs is vanished. I'm munching on the cruise like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pastis. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out every time I please. Tomato, pasta, chives and cream. More culture than you ever dreamed. I get my style from feeding my craving, and that's the good shit that you now tasting. Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive.
À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis, j'ai les crocs, paroles de Morico. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue et c'est tant mieux. Ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, hein. Viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim.
Donc toujours sur 107.5 pour Radio Diwa et pour 93 pour Radio Royan, des voix sur un plateau. Dans mon assiette, il y a... Là, c'était La Canaille.
Ah, Canaille, un artiste complet. Je pense que tout le monde a YouTube, tout le monde peut aller chercher un petit peu La Canaille. C'est vrai que c'est assez impressionnant le répertoire qu'il a. Hein. Je pense qu'il passe très peu sur les ondes. En tout cas, Monsanto, ben c'est le bonheur de certains. On vient le voir dans cette chanson. Hein. Il y en a qui s'enrichissent au détriment d'autres, pas net. Hein.
Et oui.
Voilà, donc là, c'est vraiment le cas de notre ami apiculteur.
Fabien,
qui a perdu donc toutes ses abeilles, on ne sait pas pourquoi. Traitement, maladie, en tout cas, effondrement des colonies, chose qui n'y arrivait jamais avant. Donc voilà, choisir ce qu'il y a dans son assiette, c'est aussi sauver l'ensemble. C'est pas une pyramide où l'homme est en haut, non, pas du tout. Hein.
C'est un
ensemble de choses. Lorsque je prends des légumes, des fruits OGM ou des autres, ou trop traités, des noix, des machins, des trucs, eh bien directement, je suis en train aussi de peut-être, alors je ne suis pas scientifique, mais aussi d'abîmer.
De détruire l'environnement. Voilà. Ouais, tout à fait.
Et donc, c'est une répercussion. Donc, choisir ce qu'il y a dans son assiette, c'est important.
Et voilà donc la fin de cette émission.
Avec beaucoup de blablabla.
Dans mon assiette, il n'y a
surtout pas. Et c'est pas facile de ne pas y avoir. Tu sais, Annette, ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'il y a, parce que derrière tout cela, eh bien, il y a la nature. Alors, pour soutenir
Fabien,
vendredi 13 mars, il y a des gens qui ont pris ça en main et qui ont dit, voilà, on va filer un coup de main, on va soutenir.
Arrêtons les dégâts, justement.
Voilà, avant que tout se passe. En tout cas, il faut soutenir les apiculteurs. Une soirée le vendredi 13 mars à Saint-Martin en Vercors. Donc, vous pouvez amener votre pizza, votre machin, votre truc. En tout cas, il y aura plein de concerts. Si, Annette, il y aura plein de concerts. Pistil, Raoul de Bonneville, Balivani sous système. Alors, je pense que ça va être de l'électro balafon, ça va être magnifique. Et puis aussi des rencontres avec les apiculteurs, et puis un point presse, et puis comme d'habitude à Saint-Martin, une très bonne ambiance. On vous attend tous pour soutenir donc ces apiculteurs. Blablabla. C'est quand même cette année.
Et merci donc.
Et puis vous avez aussi l'action du parc, l'AST, c'est-à-dire quoi, Annette, ça veut dire quoi?
Santé territoire. Le Vercors passe à table.
Le Vercors passe à table. Je mets le lien puisqu'il y a aussi des conférences, des rencontres de professionnels, de cuisiniers, de centres de vacances, enfin plein de gens qui agissent pour que l'on mange mieux. Je mets le lien sur notre site.
Prochain séminaire fin mars.
Merci à Radija qui a fait son premier interview. Merci aux jeunes des écoles. Et merci à Canard et Danette et Flojo pour leur petit extrait de spectacle qui s'appelle
Les bons gâteaux locaux.
Voilà, donc vous n'avez plus qu'à faire une petite page pub, venez nous chercher et on viendra vous jouer les bons gâteaux locaux. Ciao, ciao.
À très bientôt, merci.
Salut.